9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Gaille-moi les hanches, à la hache j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît croque-moi les os, s'il le faut c'est
chocolat. Merci pour les chocolats, ceux qui ont fait notre bonheur, des gâteaux de notre enfance aux créations des bonbons pâtissiers. Ils représentent cet art dont ils parlent avec le cœur et l'esthétisme, ils l'incarnent aussi. Patrick Roger, bonjour.
Bonjour.
Chocolatier, meilleur ouvrier de France, artiste, sculpteur, vous nous avez amené un livre absolument magnifique, 100 degrés 5. Qu'est-ce que ça veut dire 100 degrés 5?
Ah, je vous laisse réfléchir.
Ah non, mais tout à l'heure, moi j'ai plus de cerveau.
Non, c'est un peu plus.
Ah
c'est
bon.
Surtout dans les rencontres, à partir du moment où ça dépasse les 100%,
oui.
Ben ça devient extraordinaire, simplement. C'est vraiment dans le geste et dans la rencontre.
D'accord.
C'est l'excellence, je dirais. Et à
oui.
partir de là, je pars toujours dans un sens où, quand j'embauche quelqu'un, il a toujours 100%. Je crois absolument en tout.
Oui.
Et après, évidemment, si on démarre à 100,5, c'est hors norme.
Ah, très bien. Ben, vous êtes un optimiste aussi, aux éditions de L'Épure, en tout cas, et on plonge vraiment dans votre univers, avec l'art qui influence l'esthétisme et l'esthétisme qui influence l'art. Là, on parle de chocolat comme une pièce d'orfèvrerie, quasiment. À vos côtés, Catherine Khodorowsky, historienne et sociologue de l'alimentation. Vous êtes spécialiste du chocolat. Bonjour, madame.
Bonjour.
Et vous avez pour mission de promouvoir, de conserver avec une académie du chocolat, la tradition française en la matière. Il y a donc une manière très française de dire, de fabriquer le chocolat.
Historiquement, déjà, il faut bien avoir en tête que les principales recettes en chocolaterie et confiserie sont françaises. Un praliné, une ganache, ça a été imaginé, conçu en France.
En quelle époque ?
Au 19e siècle,
oui.
La ganache est née d'un accident, comme bien souvent d'ailleurs en gastronomie. Vous savez, il y a plein de recettes.
Comme les tartatins, déjà.
Voilà, oui. Exactement. On raconte qu'un jeune apprenti a fait tomber du chocolat dans une marmite de lait crème et que évidemment son patron ne voulait pas perdre cette belle à la matière,
oui.
Et donc il a remué, il a gardé, et finalement ainsi est née cette ganache, ce mélange de crème et de chocolat. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc on a traité ce jeune de ganache, ce qui dans le dictionnaire veut dire espèce, d'idiot,
ah oui.
d'imbécile,
ah,
et
drôle.
On a gardé ce nom-là pour, il faut quand même le dire, le nec plus ultra de la chocolaterie française. Aujourd'hui, tous les grands chocolatiers font des ganaches, et si on veut tester un artisan, on goûte quoi ? Une ganache et un praliné.
D'accord. Et donc la ganache est un mélange de chocolat et de crème. Ce que vous faites aussi, Patrick Roger, dans vos chocolateries. Est-ce que vous pourriez, vous, avant de parler des tendances 2019, peut-être, je ne sais pas s'il y a des tendances dans le chocolat, définir le chocolat à la française ?
Je pense aussi que ça naît par la Coba, en Suisse,
oui.
Où vous avez tous les enfants de le nôtre, on va dire. Souvent, ils sont passés par cet endroit.
Oui.
Le nôtre a vraiment révolutionné cet apport du chocolat qu'on va penser moderne. Après, c'est Robert Lynx,
oui.
Beaucoup, la maison du chocolat. Puis, dernière révolution, c'est peut-être un garçon là, qui a apporté évidemment une énorme révolution sur les miniatures, ce que nous, on appelle les petits bonbons.
Oui.
Et en apportant aussi beaucoup de technologie, une nouvelle vision. Donc, c'est quelques grandes étapes.
D'accord. Par exemple, le nôtre, pour revenir sur une étape importante, qu'est-ce qu'il a révolutionné,
dans les années 50,
par rapport au chocolat ?
Ils amènent vraiment cette finesse, ce qu'on appelle plutôt un chocolat qui devient plutôt fin,
oui.
Vraiment.
D'accord.
Et je pense que la grosse révolution, c'est ça. Tout le monde est quasiment issu de cette école, le nôtre.
Ce qui explique que, sur la finesse, les Français sont les plus grands consommateurs de chocolat noir, justement, peut-être le plus épuré, on peut dire,
c'est pas trop projet. On a une vision qui est extraordinaire. Et puis, à la base, c'est qu'on a des ouvriers, on a des artisans, on a des paysans, on a un terroir de dingue.
Oui.
Et ça, c'est pas que du chocolat pour faire du chocolat. Et c'est ça, notre énorme richesse, c'était le savoir-faire,
oui.
Qu'on est en train de perdre.
Qu'on est en train de perdre ?
Mais bien sûr.
Pourquoi ?
Mais il y a de moins en moins d'ouvriers, moins d'artisans.
Il y a moins de transmission.
Paysan, c'est quasiment impossible. Moi, je suis paysan, c'est infernal. Vous êtes incapable de vivre. Donc après, ça dépend aussi de l'économie, de notre choix politique. Finalement, on a pris des décisions, on a choisi. Et aujourd'hui, c'est tout savoir-faire qui est en train de partir. Bien sûr que, bon, moi je suis en tête, on est en haut de la pyramide.
Oui.
Donc ça, on est comme le Real de Madrid ou Barcelone.
Bien sûr, mais vous vous inquiétez
Ferrari.
Pour vos poursuivants, justement.
Le problème, c'est pas moi, c'est que je peux pas vivre tout seul. J'ai, je sais pas, 200 fournisseurs. Et si j'ai pas tous ces petits fournisseurs, on est bien en train de s'apercevoir avec tous les problèmes géopolitiques aussi, tout ce qu'a sa gueule. Et donc ça, le problème, il est vraiment là.
Alors, ben justement, on va essayer de comprendre ce qu'il y a lorsque l'on croque un bon chocolat, une ganache, un praliné, une tablette. Vous en faites de délicieuses, Patrick Roger, mais tous les chocolatiers sont appelés aujourd'hui au Standard Europe 1 pour témoigner ce qu'il y a derrière, justement. Une manière de consommer peut-être plus éthique, plus responsable. Les tendances 2019 du chocolat à l'occasion du salon qui s'ouvre demain, Porte de Versailles à Paris. On en parle dans un instant. Et Christian nous rejoindra de Paris. Il est chocolatier. Il a travaillé toute sa vie dans la recherche de plantations. À tout de suite.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. À la veille de l'ouverture du Salon du Chocolat, c'est donc demain, nous recevons Patrick Roger qui est chocolatier, meilleur ouvrier de France et artiste sculpteur. Il nous présente un très beau livre qui vient de sortir d'ailleurs, hein. Un livre de photographie autour du chocolat intitulé 100 degrés 5, c'est aux éditions de L'Épure. Nous sommes également en compagnie de Catherine Khodorowski, présidente de l'Académie Française du Chocolat et de la Confiserie. Elle est historienne, sociologue et spécialiste d'alimentation, en particulier des épices et du chocolat.
Absolument, et la tendance 2019 qui se dégage pour le chocolat, c'est qu'on le déguste de plus en plus, qu'on peut apprendre à former son palais au chocolat, comme on apprend finalement à goûter le vin, Catherine Khodorowski. Ça veut dire qu'il y a des crus dans le chocolat quasiment, pour reprendre la métaphore liée au vin.
Absolument. Les fèves viennent de pays autour de l'équateur et ça veut dire qu'on parle de terroir.
Oui.
Un terroir, c'est quoi? C'est une terre, un climat et le travail des hommes. Alors comme pour le raisin, effectivement, les fèves n'ont pas le même goût si elles viennent de Côte d'Ivoire, du Venezuela ou d'Indonésie. Et ça veut dire que à l'école de la dégustation du vin que j'ai suivie, eh bien j'ai adapté finalement tout le vocabulaire, toute cette manière de goûter le chocolat en fonction à des fèves. On a un palais, on a une langue, on a une perception à des saveurs.
Oui.
C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux, hein, d'ailleurs. Hein. Et quand on goûte un chocolat, on le voit, on voit sa couleur, on le croque, on écoute le son qu'il fait, parce que s'il fait un son trop sec, c'est qu'il n'est pas assez riche en beurre de cacao. Il faut pas oublier que le gras comme le sucre sont des exhausteurs de goût, mais ensuite il faut un équilibre. Et pour qu'un chocolat soit bon, parce que ça c'est une question qu'on entend très très souvent, qu'est-ce qu'un bon chocolat?
Oui.
Bon, on botte en touche, évidemment, le bon chocolat c'est celui qui vous plaît.
Bah, c'est ça, hein, bon. C'est ce que j'allais dire, mais, c'est pas subjectif. Hein.
Voilà, mais c'est vrai que quand on en parle aux artisans, à ceux qui font la matière, il y a quand même un certain nombre de critères. C'est à l'équilibre, et surtout, quand on a avalé le chocolat, s'il ne vous reste que le goût du sucre, il faut vous inquiéter.
Oui.
Un bon produit, que ce soit pour du chocolat ou pour autre chose, il faut qu'il y ait le goût des ingrédients.
Et Patrick Roger est bien placé pour le savoir, parce que vous choisissez scrupuleusement vos fournisseurs. Ça veut dire que vous voyagez aussi beaucoup dans le monde pour aller chercher la fève, la perle rare.
Il n'y a pas que ça. Par exemple, moi j'ai 800 paysans à Madagascar,
oui,
qui vont arriver à fournir un batch, ce qu'on appelle une recette, un lot.
Oui.
Et finalement, on est en dehors des clous. Alors c'est ce que j'appelle une dictature complètement libre.
Oui.
Évidemment, c'est mon goût qui décide. Et un bon chocolat, c'est quoi finalement? C'est, je dirais, c'est comme en amour, quoi. Quand on recommence, c'est super bien, quoi. Donc, et finalement, cette capacité à manger beaucoup vient simplement du process. Aussi, bien sûr, c'est une notion de terroir, c'est des ingrédients d'exception. Et une fois qu'on arrive à lier tout ça, ça devient juste fantastique. Et moi, j'ai cette capacité, je mange environ 200 kilos de chocolat par an, donc entre 500 et 1 kilo.
On fait demander la moyenne, ouais.
Oui, c'est explosif, mais finalement, c'est mon travail aussi.
Bien sûr, mais quand vous allez justement sur le terrain, dans ces terroirs, vous goûtez quoi? Vous croquez la fève et bon, vous arrivez à sentir qu'il y a justement...
Aujourd'hui, j'ai encore plus de chance, donc j'ai des ingénieurs, j'ai des sourceurs qui vont travailler vraiment en amont et qui travaillent sur mon profil. Parce que la grande question, par exemple, si on prend le cas de Valrhona, c'est... Il faut vraiment une grosse industrie derrière pour être capable de trouver le bon profil. Et par exemple, une ingénieure, Marie, est capable de calculer la vitesse du vent dans les trous de nez avec les poils. Donc, ça va super loin. Donc, et finalement, c'est le ressenti. C'est comment on va mettre des mots sur ce que je ressens, puisque ce n'est pas mon cerveau qui décide, c'est mon corps.
Ouais.
Et sans doute le génie, ce que j'ai, c'est cette capacité à manger beaucoup, si ça va bien. Et si ça ne va pas, je suis extrêmement mal élevé, donc c'est très simple.
Oui, mais la fève, vous pouvez la croquer, on peut ressentir déjà la saveur du chocolat juste en croquant la fève avant que vous ne l'ayez travaillée, modelée.
Donc on travaille en amont, vraiment, tout ce qui est en amont,
ouais,
et tout ce brief qui va faire qu'on va donner comme un pilote. en F1 ou en GP, en moto, tu vas donner à tes ingénieurs toutes les indications. Et c'est ce qui va faire que l'ensemble de l'équipe va pouvoir travailler tout seul, c'est pas possible.
D'accord.
Il faut vraiment, c'est une vision, c'est un homme. Souvent, je parle de Jean Todt et Michael Schumacher, c'est pareil. Ils étaient 1000 à travailler pour un pilote. Et pour moi, c'est exactement la même chose.
C'est vraiment une aventure collective. Il y a Elodie, juste avant la pause, de Rennes, qui nous écrit sur Facebook. Je voulais savoir ce qu'un grand chocolatier pense des rayons de chocolat au supermarché. Des centaines de références avec des tablettes qui innovent quand même
Patrick
de plus
Roger,
en plus.
Pouf.
Non, ben là, je suis mal parce que je suis pas allé dans un supermarché depuis peut-être 20 ans.
Oui, parce qu'on dire qu'il y a... pour vous. Donc
ouais. Il y a beaucoup de tablettes et de références.
Je suis pas bien, là. Ouais. Du tout. Je sais même pas répondre.
Vous avez pas
ça m'intéresse pas.
Ouais. Ouais. C'est pas le même chocolat,
non.
Catherine Kodorowski, mais c'est quand même du chocolat qui se vend et qui plaît. Malheureusement, j'allais dire pour vous.
C'est du chocolat qui
on en achète tous.
Qui se vend, mais on ne peut pas le comparer avec un chocolat fait par un artisan. Ceci dit, il faut quand même dire qu'au fil des années, la qualité moyenne des tablettes de chocolat a évolué en France.
Oui, oui.
Il faut le dire.
Oui.
Et que le rapport prix-qualité est quand même meilleur qu'à 30 ans. Il faut
Et c'est 99% du marché.
Donc, absolument, voilà. Il faut le dire.
99.
Voilà. Dit Patrick Roger, notre meilleur ouvrier de France, mais heureusement, voilà, ces produits évoluent. On fait le point sur ce produit de luxe, peut-être le vrai, le bon chocolat dont on parle aujourd'hui. Comment travaille-t-on le chocolat et comment explique-t-on l'addiction qu'il éveille en nous? On fait le tour de la question, Julie, ce matin.
Europe 1.
Le Salon du Chocolat, le 24e du nom. 24e édition ouvre ses portes demain à Paris, porte de Versailles, avec 230 exposants venus du monde entier et 60 pays représentés. Wendy Bouchard.
Et l'excellence française en question, on va en parler. Patrick Roger la représente, notamment chocolatier, meilleur ouvrier de France, artiste, sculpteur. Il nous a amené quelques-unes de ses créations. C'est toujours évidemment très esthétique dans des coffrets. Vous nous avez amené notamment deux tablettes de chocolat, Patrick Roger. Alors je veux le dire à chacun, parce qu'on parlait de luxe tout à l'heure, je me suis presque un peu emballée parce que c'est une tablette dans un coffret qui permet une belle conservation du chocolat.
En métal.
C'est magnifique. Mm-hmm. Hein. Combien vous vendez-vous ça dans vos boutiques?
Les tablettes, entre 7, 8 à 10 euros.
C'est rien, Catherine Kodorowski. Quand on va, pardon, de reprendre quand même l'idée du supermarché, c'est 2-3 euros la tablette de chocolat Nestlé, Valrhona, ce que vous voulez. Ça veut dire que vous travaillez à perte, Patrick Roger?
Les tablettes, on est extrêmement mal. C'est pas notre métier. On le fait par amour.
Ah oui.
Parce que sinon, on va
pour diffuser plus.
Tout simplement enlever l'ensemble.
Oui.
Aujourd'hui, on a une économie qui est tellement complexe. Parce que là, on va plutôt parler d'URSSAF après, comment ça se passe. Mmh. Ça, c'est beaucoup plus dur. Mais nous, notre cœur de métier, c'est pas de faire des tablettes. C'est les petits bonbons de chocolat.
Oui,
qui sont là.
Vous avez un coffret là, vous avez une démonstration.
Ah. Notre cœur de métier, c'est ça. Et finalement, tu fais comment pour continuer?
Alors, vous pouvez nous décrire ça, par exemple, dans cette boîte?
Voilà, ça résume 34 ans d'une vie.
La vôtre.
La mienne, quoi,
oui.
En gros.
Des chocolats en vrac dans une grande boîte.
Normalement, ça arrivait rangé, mais je pense qu'il y a un peu de monde qui s'est servi et on n'a pas bien respecté la boîte.
Ah, bon, ça, c'est un autre problème. Il y a un ordre?
Non, il faut faire attention. C'est sacré. C'est le travail qui est sacré.
C'est comme un coffret d'orfèvre.
C'est ça. Le travail, c'est hyper sacré.
On est en vidéo sur Europe1.fr, sur ceux qui nous suivent. Décrivez-nous quand même quelques-uns de ces chocolats.
Quand on a une boîte de chocolat comme celle-ci, c'est vraiment le résumé de toute ma vie, mais surtout ma vie de gamin aussi qui est dedans. Parce que ça va venir comment? Le bout de génie, on va mettre beaucoup de temps à comprendre pourquoi la salade elle a ce goût chez mes parents. Mmh. La chance que j'avais, je vivais dans le Perche, j'ai des parents qui vivent avec 1000 euros par mois,
oui.
Un truc comme ça. Donc c'est pas du luxe de bien manger, c'est juste normal. Et toute ma vie, vous parliez du prix de la tablette, quand je vois une tablette qui est 7, 8, 9, 10 euros, je trouve ça indécent dans l'absolu.
Oui, bien sûr.
Mais alors, finalement... comme dans une boîte comme celle-ci, qui a une centaine de chocolats, le résultat de l'entreprise, c'est 4 chocolats.
Ouais.
Tout le reste, ça passe dans la production, ça passe évidemment dans les charges, ça c'est évident, puisque notre cœur de métier et notre problème demain, c'est simplement la masse salariale, quoi.
Alors
c'est d'avoir
vous,
les bons.
En plus, vous avez ce problème-là, mais alors si on remonte la filière, Catherine Kodorowski, que dire? Que dire des petits planteurs de cacaoyers aujourd'hui qui fournissent les grands chocolatiers ou la chocolaterie industrielle? Comment travaille-t-il?
Quand on prend une tablette, est-ce que vous avez l'idée du pourcentage qui revient aux planteurs de cacao?
Ouais, ça doit être infinité.
7%.
Voilà, ouais.
7%. Et ça veut dire que le plus grand, la part des intermédiaires, parce que c'est ça hein, finalement.
Il y en a 20.
Voilà, elle est absolument énorme. Et c'est un grand souci aujourd'hui. Est-ce que dans quelques années, on va manquer de cacao. Je vais reformuler ma question. Est-ce qu'on ne va pas manquer des cultivateurs de cacao?
Oui.
Alors c'est une question qu'on peut se poser.
Pour moi, c'est une question qui revient régulièrement, Patrick Roger.
C'est pas vraiment,
vous qui êtes un spécialiste.
La question n'est même pas comme ça. C'est qu'aujourd'hui, on vit parce qu'il y a des pauvres, quel que soit le territoire. Donc ça, c'est aussi un vrai choix. Moi, je rentre de 5 pays d'Afrique. D'abord, l'immigration et la croissance, elle est en Afrique, c'est très clair. Ils vont résoudre leurs problèmes, ça c'est sûr, parce que c'est celui qui donne du travail, qui enrichit.
Oui.
Pour moi, ça me paraît assez évident. Aujourd'hui, quand t'es black et que t'arrives à Saint-Denis, c'est pas de la rigolade, quoi, pour arriver à vivre dans un pays comme ça. Je reviens sur la matière première, c'est que demain, effectivement, on va plus trouver de matière première, c'est évident. Et la première problématique, elle est en France. Moi, je suis paysan, on a 45 hectares d'amandiers et de la vigne.
Oui.
Trois salaires, c'est 210 000 euros. Le chiffre d'affaires, c'est entre 60 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et je parle que des salaires. Il fallait acquérir la terre. C'est parce que Patrick Roger est mécène le chocolatier avec ses clients. Je suis mécène d'une filière qui est l'amande, puisque mon cœur de métier, c'est le praliné et c'est la pâte d'amande.
Oui.
Et si j'ai plus de matière première, on est quatre producteurs d'amandes dans les Pyrénées-Orientales. Tu ne peux pas vivre, c'est très clair. On a fait ce choix, contrairement à la Suisse, qui vont financer... on paye très très cher la viande, le lait,
les yaourts. Mais ce qui est fou, c'est que vous êtes la crème de la crème, si j'ose dire, Patrick Roger. Donc si vous, déjà, vous avez ces problématiques-là...
Mais on est au cœur du réel, nous, surtout.
Au cœur du réel, bien sûr. Mais déjà, aujourd'hui, chocolatier, c'est du travail, c'est de l'art, c'est de l'esthétisme. C'est pas un produit de luxe au sens où vous ne gagnez pas vraiment votre vie.
On n'a pas à se plaindre.
Bien sûr, mais j'entends les limites. Mais pour revenir sur ma tablette de supermarché, au moins, est-ce que l'avantage des artisans ne serait pas de faire monter en gamme ces produits de supermarché? Parce qu'on les voit de plus en plus évoluer avec des fruits, avec du praliné, avec Catherine Khodorowsky. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Moi, je suis absolument sûre que la montée en qualité des tablettes depuis 20 ou 30 ans est due aux artisans français.
Merci.
À savoir, ils ont une inventivité en permanence.
Oui.
Si vous allez dans le labo de nos artisans, il y a toujours des jeunes apprentis qui viennent du monde entier.
Oui.
Et c'est pas pour rien. Hein. Ils viennent de Chine, ils viennent du Japon et même de Suisse et de Belgique. Il faut le voir, ça. Dans tous les labos français, il y a des jeunes étrangers qui viennent apprendre la chocolaterie.
Ça veut dire que la référence en matière de chocolat, c'est la France aujourd'hui?
Absolument. À travers le monde, c'est la France.
Même si les grands consommateurs de chocolat sont les Belges, les Suisses, les Allemands, Patrick Roger, mais vous voyez le monde entier défiler chez vous?
Bien sûr.
Dans vos 10 magasins
en
France?
On a la plus belle équipe du monde en termes de staff. Le but, d'ailleurs, il n'y a pas de Français. Les 4 premiers salaires, dont 5 maintenant chez nous, c'est 5 filles d'abord, depuis 20 ans.
Oui.
Ça a toujours été comme ça.
Chocolatière, vous voulez dire?
Non, même pas.
Non.
De l'entreprise.
D'accord.
Et après, les 4 premiers à l'atelier, c'est 4 étrangers.
Ah.
Japonais, Italie, catalan et Brésil.
Génial.
Et la chance qu'ils ont, c'est que quand ils viennent en France, ils sont là pour bosser, quoi.
Oui.
Ils comprennent pas notre système de social, de travail et tout ça. Et c'est cet arbitrage et cette table de mixage qui est ultra complexe. On est dans un monde... C'est pas simple.
Ouais. Et vous voyagez aussi, vous irez au mois de janvier pendant 2 mois au Japon, justement pour prendre un peu de leur esthétisme, de leur inspiration. On se retrouve avec Christian Anthony au standard et avec un grand croqueur de chocolat. Il préside un club dédié, Monsieur Jacques Pessis. Alors comment on passe de la chanson française de l'histoire au chocolat, il nous expliquera tout ça. À tout de suite. C'était juste un petit plaisir personnel. J'adore Annie Cordy, j'adore cette chanson.
Elle nous écoute.
Exactement. Le Salon du Chocolat est un marché en or. En tout cas, les Français raffolent du chocolat noir. Le chocolat français est un modèle d'excellence qui s'exporte partout dans le monde. Et nous avons un beau représentant avec nous en studio qui dit pourtant les difficultés de ce métier, la difficulté de la transmission et de l'artisanat. Patrick Roger, meilleur ouvrier de France, chocolatier. Et Jacques, avec nous par téléphone, Jacques Pessis. Je sais que vous êtes pressé, Jacques, mais merci de nous dire un petit mot.
Bonjour.
Grand journaliste, la légende du music hall, si je vous fais passer Annie Cordy, évidemment, vous êtes intarissable, mais vous êtes président du club des croqueurs de chocolat. Comment êtes-vous arrivé dans ce beau bain chocolaté?
Quelques amis ont fondé ce club pour rire un soir.
Oui.
Je suis arrivé le lendemain. On s'est retrouvé chez un notaire à créer le club qui devait s'appeler au départ les cinglés du chocolat, qui est devenu les croqueurs du chocolat. Parce que la préfecture a refusé le mot, et on pensait avoir quelques membres pour rire comme ça. on a dit, on va accueillir 150 membres au maximum. Au bout de 2 mois, on était plein et ça fait presque 40 ans que nous défendons les artisans français. Car quand on dit chocolat français, c'est un pléonasme, le chocolat est français.
Le chocolat est français, Patrick Roger nous l'a dit. Alors je ne sais pas si vous avez pu entendre un petit peu son témoignage sur la difficulté aussi de cet artisanat. Quand vous voyez les Français se jeter sur d'autres tablettes qu'on n'achète pas en l'occurrence en boutique, qu'est-ce que ça vous fait, Jacques Pessis? Parce que c'est la réalité du marché, 99% du marché c'est celui-ci.
Alors il y a 2 choses. D'abord, les industriels, grâce au travail des artisans, ont fait de gros progrès depuis quelques années. Entre aujourd'hui et il y a 20 ans, le chocolat qu'on trouve dans les hypermarchés n'a rien à voir.
Voilà,
il est bien meilleur,
bon, oui.
Ça c'est clair. Ensuite, moi je défends les artisans et je considère qu'il y a une nouvelle génération d'artisans. Dans le guide que nous faisons chaque année et qui sort dans quelques jours, on trouve chaque fois de nouveaux artisans qui, dans toute la France, dans la douce France, travaillent comme des fous pour perpétuer la tradition du chocolat. Ce sont souvent des couples qui démarrent, monsieur travaille avec madame. Madame est souvent japonaise, parce que les Japonais adorent le chocolat français, et ils mettent tous leurs efforts, leurs investissements, leurs économies pour ouvrir une boutique. Ça met quelques années et ça marche. Et il y a de plus en plus de consommateurs français qui vont chez les artisans, même si le prix est supérieur à celui du hypermarché.
Bah oui, parce qu'évidemment, on a la substance, on a le goût, on a toute la nostalgie qui nous envahit. Le chocolat le plus lié à l'enfance pour vous, quel est-il, Jacques Pessis?
C'est naturellement les tablettes qu'on trouvait dans le métro. À l'époque, on payait 20 centimes dans le métro, une petite tablette de chocolat, on sortait de l'école, on achetait ça, c'était magnifique. Mais aujourd'hui, ce serait totalement immangeable. Il y a même des progrès dans le chocolat, je ne sais pas si vous le savez, Wendy, mais aujourd'hui, on parle du chocolat éthique. Et c'est très important, parce qu'il y a des artisans qui aujourd'hui disent on va défendre la qualité du cacao de base, il y a une éthique du chocolat comme il y a du bio et autres. Et ça, c'est aussi très important pour l'avenir du chocolat.
Eh bien, merci Jacques Pessis, et je vais rebondir justement sur la qualité éthique du chocolat que l'on consomme, sur notre vertu plus citoyenne. Vous avez devant vous, merci Jacques, cette boîte magnifique de chocolat Patrick Roger, et notamment la pistache. Alors la pistache, par exemple, vous allez la chercher où, vous?
La pistache dépend de la Syrie, Iran, Turquie, et nous on achète en Sicile. Donc si vous avez un problème géopolitique, ce qui est le cas, donc vous avez le cours qui s'envole. Aujourd'hui on est entre 50 000 à 60 000 euros la tonne.
Oui.
Et le seul ravagé qui est capable d'acheter 2 tonnes d'un coup, je pense.
Entre autres.
Parce que finalement, on n'a fait aucune concession sur le goût. Et j'ai cette chance d'être libre. Financièrement, j'ai pas d'actionnaire, donc je fais que ce que j'ai envie. Aujourd'hui, si vous donnez ça dans un gros groupe qui est géré par des financiers, vous achetez pas à 60 000 euros la tonne. C'est pas possible, puisqu'on va vendre, nous, le kilo de chocolat, 100 000 euros la tonne, on va dire.
Mais c'est votre manière éthique aussi de vous implanter dans ces territoires pour ces matières premières, Patrick Roger.
J'ai même pas de problème éthique. Toute ma vie était comme ça.
Oui, c'est
je
ça.
Viens du Perche, je suis locavore, et j'ai mangé exceptionnel toute ma vie.
Oui.
C'est pour ça que je disais, bien manger, c'est pas du luxe.
C'est une cohérence chez vous, très très clairement. Mais la démarche éthique chez les consommateurs de chocolat, elle s'inscrit aussi plus durablement, Catherine Khodorowsky, aujourd'hui.
C'est la tendance, effectivement. Aujourd'hui, les consommateurs, pour le chocolat ou pour des autres produits, ont envie de comprendre d'où vient le produit, comment on l'a transformé et pourquoi il est bon. Ce qui veut dire que pour les fèves, aujourd'hui, sur une tablette, de plus en plus, comme pour le vin, on va dire d'où viennent les fèves. Et c'est pour ça aussi que les artisans vont sur place pour connaître les planteurs, pour choisir les fèves,
les filières,
et participer à la transformation. Un bon produit qui est mal transformé fera forcément un mauvais chocolat.
Oui, bien sûr.
Donc il est essentiel d'avoir cette relation privilégiée avec ceux qui cultivent le cacao et de leur expliquer ce qu'on attend de ce qu'ils vont faire de la fève sur place, en sachant qu'il y a une partie de la transformation sur place dans les pays producteurs et l'autre ensuite chez le chocolatier.
Et on aura une question pour vous sur le sujet d'Anthony dans un instant au Standard Europe 1. Julie, tout
39,
va bien
21, tout va bien.
Oui.
Oui. Et le hashtag Europe 1 si vous souhaitez nous joindre par Twitter.
Oui. Vous avez les yeux qui pétillent, mais parce que vous ne pensez qu'au chocolat. Je vois bien que vous reluquez la boîte depuis tout à l'heure.
Hein. À tout de suite pour la suite. Le tour de la question sur le chocolat, le travail du chocolat, les ingrédients. Nous sommes avec Wendy Bouchard et ses invités jusqu'à 11h.
À la veille du 24e salon du chocolat, porte de Versailles à Paris, Patrick Roger nous éclaire, meilleur ouvrier de France, chocolatier qui va chercher toujours des produits d'exception partout dans le monde. Il nous en redira quelques mots dans un instant. Catherine Khodorowski, présidente de l'Académie française du chocolat et de la confiserie, promeut et conserve la tradition française en la matière et elle est belle cette tradition. Vous êtes spécialiste du chocolat et vous avez écrit par ailleurs « Épices, sublimez vos plats préférés » parce que épices au chocolat, bah, c'est quand même assez lié toute cette histoire. Anthony est avec nous depuis le Finistère au 39-21. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour Wendy, bonjour Julie, bonjour à tous.
Vous êtes croqueur de chocolat, cher monsieur ?
Oh ouais, c'est amateur, ouais. J'aime bien, ouais.
Très
un
bien.
Bon chocolat, de temps en temps, ça fait plaisir.
Alors c'est bien d'être à l'écoute parce que vous avez une question pour nos invités.
Alors oui, exactement, oui. Le chocolat, c'est assez... je sais pas comment le
addictif.
Dire, mais c'est assez polémique parce que,
oui,
addictif, bien sûr, mais je dirais un peu compliqué au niveau de l'approvisionnement parce que ça vient de pays où la culture est quand même assez compliquée. Il y a beaucoup de pesticides, il y a notamment le travail des enfants, même dans certaines marques bien reconnues.
Oui.
Alors, comment choisir une marque de chocolat où on est sûr qu'il n'y a pas ça, où c'est produit correctement et où les gens sont rémunérés correctement? Parce que j'ai vu que même dans des filières qui se veulent éthiques, on a quand même vu le travail des enfants et des pesticides qui sont interdits en Europe depuis des générations.
En tout cas, vous réagissez sur la nécessité de consommer éthique, hein, qui est une tendance que nous décidait Catherine Khodorowski. Bien choisir son chocolat, voilà, on est consommateur, on va chez les artisans ou ailleurs, comme on fait Catherine Khodorowski, pour pas se faire enfumer, si j'ose dire, par le marketing aussi.
Alors, le marketing, effectivement, nous raconte un tout et n'importe quoi. C'est vrai que dans les pays africains, plus que dans les pays producteurs en Amérique du Sud, il peut y avoir des produits qu'on met sur les arbres, alors que la plupart des agriculteurs du cacao n'ont pas les moyens de payer des produits chimiques. C'est un problème. C'est vrai aussi que dans des pays de l'Europe de l'Ouest, il y a le travail des enfants. Je vais faire quand même la part des choses. Il faut pas oublier que dans les années 50, en France, on fixait la date de la rentrée scolaire en fonction des foins.
Oui.
Et que les enfants des agriculteurs aidaient leurs parents aux travaux agricoles. Donc, nous ne sommes pas là pour condamner les enfants qui, dans le cadre familial, tout en allant à l'école, et ça c'est absolument fondamental, surtout pour des pays en voie de développement, quand les enfants aident au sein de la famille aux travaux d'une ferme. Bon, par contre, il est vrai qu'il faut absolument condamner, et il y a des pays en Afrique de l'Ouest qui le font, qui vont prendre des enfants dans des familles pauvres pour les faire travailler dans des conditions inacceptables dans des plantations. Et ça, il faut vraiment le dénoncer.
Et Patrick Roger, vous avez avec d'autres artisans vos références éthiques. Par exemple, je lis que 83% de la consommation de chocolat provient des cacaoyers de Côte d'Ivoire. C'est pour l'industrie en général, parce que vous approvisionnez pas là-bas en l'occurrence.
Ouais, disons que ça gère le marché mondial.
C'est ça.
Bien sûr. Mais après, derrière, c'est même pas industrialisé. C'est assez étonnant. C'est comme si on n'avait pas de blanc qui s'était intéressé réellement à la filière. Le problème de tout ça, c'est que tout simplement, je sais pas, moi je rentre de RDC. Faut que je réfléchisse, parce que quelques pays.
République du Congo, oui.
C'est juste qu'on a fait un choix aussi. C'est nous qui sommes responsables de cette histoire. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, en RDC, pour mettre un gamin à l'école, ça vaut combien? En primaire. Combien ça vaut pour mettre un gamin à l'école? Ça vaut $1 par mois.
Mais vous, quand vous allez dans les plantations, vous voyez qu'il y a des enfants qui travaillent
aussi?
Pas forcément.
Non.
Mais vous choisissez bien justement vos producteurs.
Oui. Donc le problème, c'est que c'est nous qui sommes responsables de cette histoire. On est complètement égoïste. C'est évident. On veut tous manger le mieux. On veut tous s'approvisionner. On pourrait parler de géopolitique monde.
Oui.
Vraiment. Parce qu'il n'y a pas un truc qui n'est pas lié.
Mais moi, je vous parle de géopolitique d'excellence. Parce que quand je vous dis où est-ce que vous allez chercher vos produits, vous dites je veux le meilleur. Donc peu importe si je fais 30 000 km, j'irai le chercher.
De toute façon, on n'a pas le choix. Puisque
par exemple,
47 pays producteurs dans le monde qui viennent
de
la ceinture équatorienne, 20e parallèle nord et 20e parallèle sud. Donc c'est ce que me disait un Africain, il dit, mais de toute façon vous vous mêlez de ce qui est notre histoire. Alors, et finalement on est responsable de tout ça aussi.
C'est sûr.
Parce qu'on ne sait pas vivre sans l'un, sans l'autre. Quoi. Par exemple, nous à Madagascar, on a 800 petits paysans qui travaillent pour nous. Mmh. Et ça, comment tu gères? Évidemment, il faut y aller, il faut voir ce qui se passe. Quoi. Et quand le gamin ou la famille, ils vivent peut-être avec $1 par jour, évidemment qu'ils mangent des fèves. Ouais. C'est possible, quoi. Et on vient se mêler de quelque chose, mais on est quand même responsable. Macron dit souvent, je suis pas responsable de la colonisation aussi, bien sûr. Et tout ça, si on prend pas l'ensemble, c'est pas qu'une histoire perso,
c'est
quand on est au bout
globale,
de la ligne.
Bien sûr, mais bien vous sûr. Essayez un peu d'arranger les choses, si j'ose dire. Le safran, vous allez le chercher où, par exemple, votre safran?
Le safran, ça peut venir
d'Afghanistan.
Afghanistan, oui. Pakistan. Oui. Mais par exemple, nous, sur notre filière qui est l'amande, par exemple, simplement en France, pour arriver à faire ça, il faut être sacrément balèze en payant des gens à un tarif français, quoi. Oui. Parce que nous, on a notre vision de Paris, on est bien gentils, mais ça marche comment le monde? Oui. Donc je reviens sur la RDC, quand on n'est pas capable de mettre les gamins à l'école, moi, je paye dans cette boîte, vous avez 20% d'impôts. L'URSSAF, la TVA et l'impôt sur la société. Avec mes impôts, je peux mettre 200 000 gamins à l'école par an en RDC. C'est juste qu'on n'a pas envie. C'est ça? Vous prenez une grosse boîte comme Amazon, ils foutent l'Afrique entière à l'école. Mais on a... Le problème, il est là. C'est comme ça qu'il faut réfléchir.
Voilà, l'histoire du chocolat, c'est aussi l'histoire mondiale que nous raconte Patrick Roger. Alors, on sort de la gourmandise, du plaisir gourmand de croquer, mais c'était important aussi d'évoquer ces sujets-là. On va revenir au plaisir gustatif avec Christian Chocolatier qui nous attend et qui veut réagir de Paris. Et le chocolat est encore en question jusqu'à 11h ce matin, Julie.
Avec Wendy Bouchard.
Europe 1.
Et retour au chocolat. On déguste
oui,
avec
les Belges.
Bouchard,
on peut en parler des Belges avec le chocolat au lait. Alors, vous aviez une boutique à Bruxelles, mais ça a moins pris que des boutiques florissantes à Paris, Patrick Roger, parce que c'est pas la même culture quand même, la France et la Belgique sur le chocolat.
Complètement. À Paris, on a une telle culture et la France qui est absolument dingue, puisqu'on a vraiment envie d'avoir les meilleurs médecins, les meilleurs chercheurs. Ouais. On veut tout mieux. Donc,
et pas les Belges.
Les Belges, c'est différent.
Mais ils sont moins chocolat noir que nous aussi,
oui,
c'est pas ça?
Et puis surtout, dès le départ, on n'offre pas aux gamins quelque chose qui est forcément bon. C'est toute la différence avec Paris. Paris, on veut les meilleures écoles pour nos enfants. On veut la meilleure médecine, on veut tout mieux, de toute façon, c'est pas très dur. C'est pour ça qu'on a dans le monde, cette vision qu'a eu la France, même si ça se dégrade, on a une vision qui est extraordinaire.
Pour la gastronomie avec le nôtre,
mais
que vous citiez.
L'ensemble de tout ce qu'on a fait dans notre vie, ça va d'Areva à Alstom, en passant, quel que soit
c'est bien parce qu'il fait tous les sujets, Patrick Roger, aujourd'hui. On parle pas que du chocolat.
Mais j'ai pas le choix.
Fonctionnaire.
Je peux vous en mettre une couche, si vous voulez.
Il a son opinion aussi.
Je peux vous aider, et les chômeurs aussi.
Il consomme 200 kilos de chocolat par an, évidemment, c'est son métier, alors que les Français en consomment en moyenne 7 kilos par an. Par habitant, c'est quand même deux fois moins que les Allemands qui sont aussi de grands croqueurs de chocolat. Christian est avec nous, chocolatier à Paris. Bonjour Christian.
Oh oui, bonjour, bonjour Wendy, bonjour tout le monde.
Eh bien bravo pour ce que vous faites. Déjà.
Merci, mais je suis ravi de votre émission parce que en fait je n'ai presque rien à rajouter. Sinon vous dire que moi ma démarche a été un tout petit peu différente, et si je peux apporter un petit plus simplement, c'est vous dire que moi j'ai commencé à m'intéresser vraiment au chocolat parce que j'étais l'assistant de Gaston Lenôtre entre 1965 et 1970. Oui. Et à partir de 1970, très influencé par mon milieu familial, puisque je suis fils de vigneron et petit-fils de vigneron également, et donc je me suis dit qu'il n'existait pas un chocolat, mais qu'il y en avait forcément beaucoup, et beaucoup de chocolats très différents les uns des autres. Oui. Et j'ai commencé à parcourir le monde. Je suis allé au Venezuela, je suis allé en Colombie, je suis allé en Équateur, à Trinidad, à Tobago, à Grenada, à Cuba. Et au cours de ces différents voyages, qui ont duré malgré tout de nombreuses années, je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais raison. Il n'y avait pas du chocolat, mais qu'il y avait autant de chocolat qu'il y a, premièrement, de variétés botaniques, deuxièmement, de plantations, et puis dernièrement aussi de planteurs. Et parce que les planteurs sont plus ou moins motivés et rencontrent quelquefois bien des difficultés de main-d'œuvre qui sont très différentes les unes des autres. Hein. Je ne parle même pas du travail des enfants qui est évoqué il y a un petit moment, mais je parle simplement de pays, par exemple, comme Trinidad, où le pétrole est roi et on ne trouve pas de main-d'œuvre du tout. Moi, j'avais découvert une plantation qui s'appelle San Juan Estate, qui était repris d'ailleurs par Valrhona beaucoup plus tard. Oui. Et aujourd'hui, on abandonne simplement parce qu'on n'a personne pour cultiver.
En tout cas,
les gens vont travailler au pétrole, par exemple.
Fils de vigneron que vous êtes a bien compris justement la similitude entre à la fois la vigne, le terroir et le chocolat.
Ce que je veux dire, si vous voulez, simplement, et pour aller vite, c'est que simplement, il y a des goûts très différents et que ces goûts très différents qui sont en fonction des variétés botaniques. Et le client qui vient nous voir aujourd'hui nous pose des questions. Parce que le client est informé et le client en sait autant maintenant sur le chocolat que l'amateur de vin en connaît sur les cépages également et sur toute la distribution qu'a pu en faire l'INAO.
Et on a parlé de chocolat, Christian, j'allais dire quand même un peu d'excellence, de luxe. Le mot n'est peut-être pas bien choisi parce que la tablette chez Patrick Roger, c'est 7 euros. C'est pas non plus du luxe absolu. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de tout ce qui est à base de chocolat, est-ce que on a le droit aussi d'en faire des produits exceptionnels, les gâteaux de notre enfance, même les petits biscuits chocolatés. Christian, vous êtes chocolatier. Il y a beaucoup de chocolatiers pâtissiers aussi aujourd'hui qui essaient justement d'étendre la gamme du chocolat.
Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le chocolat et l'usage que l'on en fait en tant qu'aromate.
Oui.
Le chocolat qui sert à aromatiser, c'est-à-dire les gâteaux, la biscuiterie. Et d'ailleurs, c'est vrai que la biscuiterie, c'est le plus gros utilisateur de chocolat. Mm-hmm. C'est pas du tout la confiserie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, l'essentiel, c'est de bien différencier les deux produits. Moi, je vais commencer à vous parler du chocolat en tant que matière pure, c'est-à-dire le chocolat comme le vin.
C'est ça.
Mais évidemment, on peut utiliser du chocolat
pour faire n'importe
quoi. Et Gaston,
le nôtre, faisait les deux, d'ailleurs, avec son excellent opéra.
Oui, bien sûr. Et on peut très bien faire des gâteaux, on peut très bien faire de la confiserie. La confiserie, moi, je crache pas dessus. C'est très, très bon, la confiserie. Pourquoi pas? Mais simplement, j'ai voulu distinguer la matière première de l'usage que l'on
très
peut
bien
en faire également dans d'autres
Christian,
productions.
Christian, vous êtes chocolatier dans une boutique à Paris. On peut venir vous voir
tout
quelque part?
Oui.
Où ça?
Oui, bien sûr. Moi, je suis au 40 rue des Écoles, en face du Collège de France.
Bah voilà.
Et c'est ma chocolaterie de retraite, parce que contrairement à ce que pourrait vous indiquer ma voix, je suis quand même un vieux monsieur. J'ai quand même 78 ans et demi.
Ah bah écoute, ça va, tout va bien, Christian. En tout cas, on ira vous voir. Voilà, pour les Parisiens de passage devant le Collège de France, rue des Écoles.
Moi, je vends des chocolats de plantation essentiellement. C'est mon travail.
Merci beaucoup. Patrick Roger est encore avec nous. Quelques mots, justement. Voilà. Non, c'est pas Christian Constant.
Non.
Mais non,
il est encore là
Constant.
Qu'on lui demande.
C'est qui?
Mais Christian Constant n'a pas 78 ans, d'une part.
Vous êtes Christian Constant?
Et puis Christian, il parle comme ça, c'est pas la même voix.
Non, mais il y a deux Christian Constant. Il y a moi, il y a mon cousin.
Et voilà. Et donc vous êtes le Christian Constant chocolatier?
Bah, bien sûr.
Exactement.
Ah, pardon.
Mais voilà, excusez-moi.
Mais oui, tout va bien, mais à bout de pas. Parce
qu'il y a même la soeur. Lui, il a gardé l'accent, moi je l'ai un peu perdu. Voilà.
Pardon, Christian. Christian Constant. Voilà, Paris 7e. Un tout petit mot pour terminer, Catherine Khodorowski, sur la formation. On engage justement pour boucler la boucle. Patrick Roger disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de successeur et que ce métier se tarissait. Il faut l'encourager encore.
Absolument. Et un jeune qui s'ennuie à l'école, il faut lui dire qu'il y a des très très beaux métiers dans tous les métiers de bouche et que s'il est formé en chocolaterie, en confiserie en France, il pourra partir où il veut à travers le monde. Il est sûr d'être connu et reconnu, mais en étant formé par un artisan français, parce que le chocolat français, c'est la reconnaissance partout à travers
le
monde.
Par exemple, chez Christian Constant ou chez vous, Patrick Roger, il y a une école Patrick Roger?
C'est évident, c'est une académie carrément.
Oui.
Donc
vous prenez les gens
de tous ces garçons, ils sont sortis, ou garçons ou filles, ils vont sortir soit chef ou ils seront patrons. J'ai, je sais pas, des centaines d'élèves, bien sûr.
C'est formidable. Voilà, merci Patrick Roger. C'est 10 boutiques en France. C'était une émission savoureuse à la veille du Salon du Chocolat Porte de Versailles à Paris. Merci pour votre petite démonstration aussi chocolatière sous nos yeux. Merci, à demain Julie.
À demain, Wendy Bouchard, 9h-11h sur Europe 1.